Radio Courtoisie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, dirigé aujourd'hui par Bernard Lugan avec l'assistance de Victoria. Diffusé en direct mercredi 7 novembre 2001 de 18h à 21h, en différé jeudi 8 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Chers auditeurs, bonsoir, Bernard Lugan au micro, le libre journal de Serge de Bekech, avec ce soir comme invité, bien sûr que les permanents, Dominique Vénère et Philippe Conrad, qui va nous rejoindre dans un moment, qui est pris dans les embouteillages, et nous avons ce soir deux invités, Jean-Pierre Thuberg, qui va nous parler de la vérité, et des vérités et des légendes sur l'affaire Matahari, qui est au-delà d'une affaire anecdotique, c'est une affaire tout à fait fondamentale dans l'histoire de France, et Aymeric Choprade, qui va nous rejoindre dans un moment, et qui va nous parler de l'Afghanistan, Aymeric Choprade, qui est géopoliticien. Bonsoir Victoria.
Bonsoir Bernard.
Bonsoir Dominique. Bonsoir Jean-Pierre Thuberg.
Bonsoir.
Une émission qui va être divisée en trois parties, donc. Une première partie durant laquelle nous allons parler des événements qui tournent autour de la question de l'africanisme et des problèmes de la pétition des africanistes. En fait, la lutte entre les deux grandes écoles africanistes françaises. Nous parlerons ensuite de l'Afghanistan et de Matahari. Une émission donc un peu éclectique, mais qui va nous permettre d'aborder des problèmes bien différents les uns des autres. Dominique Vénère, je vais vous laisser la parole pour remplir le rôle du questionnaire, puisque notre ami Philippe n'est pas là pour le moment, et vous allez le faire à sa place et d'une manière parfaitement élégante, comme vous savez le faire. Très bien.
Oui, Bernard Lugan.
Merci Dominique.
pousse, arrêtez.
Ne soyez pas mutine.
Mais nous ne rugissons pas à l'antenne. Nous rugissons parfois, mais nous ne rugissons pas. Oui, Bernard, lors de notre dernière émission, vous nous aviez dit à quel point vous êtes actuellement attaqué, à Lyon précisément, par une pétition de 55 africanistes ou pseudo-africanistes qui prétendent mettre en cause vos compétences scientifiques dans le domaine universitaire et dans le domaine scientifique qui est le vôtre. Alors, c'est une affaire qui est énorme. Elle n'a pas d'équivalent dans l'histoire même de l'université française. Elle s'inscrit de toute évidence dans tous les efforts qui sont faits par une certaine école de pensée pour interdire l'expression d'une pensée libre en matière historique, et nous savons tous à quel point l'histoire est capitale, elle est l'histoire de l'Afrique, bien entendu. Or, sur l'histoire de l'Afrique, vous avez apporté des interprétations qui sont fondées sur des éléments scientifiques, et cette interprétation dérange profondément la pensée unique, la pensée qui se veut installer. Et c'est la raison, c'est l'une des raisons, ce n'est pas la seule, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous êtes soumis à ces attaques. Il y a une autre raison qui est derrière, que l'on a appris peu après le début de cette attaque. Cette raison qui n'est pas annexe, qui est peut-être originelle même. Cette raison, c'est une attaque dont vous avez été l'objet lors de la conférence de Durban, conférence récente, table ronde des chefs d'État et de gouvernement. Vous avez fait l'objet d'une attaque directe par le président du Sénégal, le président Ouad. Cette attaque, d'ailleurs, était un formidable compliment, puisqu'il a dit en substance, je vais résumer, « Aujourd'hui, le professeur Bernard Lugan de l'université de Lyon 3 a renversé l'histoire africaine. » Alors, il poursuit, évidemment, et c'est bien sûr ce rôle qui est le vôtre, d'avoir apporté un véritable éclairage sur l'histoire africaine qui fait que vous êtes l'objet de ces attaques. C'est parce que vous gênez sur le terrain universitaire, c'est parce que vous gênez sur le terrain scientifique. Alors, pourriez-vous rappeler en substance les faits et l'origine, effectivement, de cette pétition et de cette attaque?
Alors, c'est une attaque tout à fait surréaliste qui a été lancée dans les dernières semaines. Et j'ai été mis au courant de cette attaque d'une manière tout à fait indirecte par une journaliste du Monde qui me téléphone un samedi après-midi. J'étais chez moi, dans l'Allier. Et je mettais la dernière main à mon prochain livre qui va sortir, et nous pouvons d'ailleurs l'annoncer à nos auditeurs. C'est une histoire de l'Égypte, dans laquelle je reprends complètement l'interprétation des origines du peuplement de l'Égypte. Donc j'étais il y a 4000 ans. J'étais il y a 4000 ans dans mon peuplement de l'Égypte, avec les contacts entre les Berbères, les populations du Nil, etc. Et ce journaliste me téléphone et me dit « Êtes-vous au courant de cette pétition qui circule contre vous ?» Ben, absolument pas, je tombais des nues. Et elle me décrit un peu les termes de cette pétition, etc. Et elle fait un article dans Le Monde. D'ailleurs, je ne lui avais pas donné d'interview. Elle a interprété mes paroles et elle donne cet article dans Le Monde. Et le lendemain, je reçois un avis de mon université me disant « Nous avons reçu au courrier le texte d'une pétition vous mettant en cause. Qu'en est-il ?» Donc, 55 africanistes français, africanistes entre guillemets, il y a des africanistes parmi eux, il y en a d'autres qui n'ont jamais rien publié, donc qu'ils soient africanistes ou sinologues ou spécialistes de pédologie, je ne sais pas, parce qu'ils n'ont rien publié, je ne veux pas savoir de quoi ils sont spécialistes. Ces gens mettaient en cause ma compétence scientifique à propos d'une promotion que j'ai eue, une promotion, comme l'on peut avoir une promotion lors de sa carrière universitaire. Et cette pétition, mais disait en substance, il est absolument honteux que Bernard Lugan ait eu cette pétition, car cette pétition encourage ces interprétations de l'histoire africaine qui ne sont pas scientifiques. Alors pourquoi ne serait-elle pas scientifique? Parce qu'aux yeux des auteurs de la pétition, j'aurais une vision racialiste de l'histoire de l'Afrique, ce qui ne veut rien dire, le terme de racialiste n'est pas dans le dictionnaire, je ne sais pas ce que cela veut dire. Deuxièmement, parce que je serai un défenseur de l'apartheid, ce qui est tout à fait intéressant, quand on sait que l'apartheid a disparu en 1987 en Afrique du Sud, défenseur de l'apartheid, c'est proposition surréaliste. Et troisièmement, parce que j'aurais écrit dans des revues qualifiées d'extrême droite. Je ne vois pas en quoi le fait d'avoir donné des rubriques ici ou là peut infirmer mes démonstrations historiques sur l'Afrique. Et tous les éléments qui m'accusaient étaient tirés de mes premières publications des années 1987, 1988, 1989, qui correspondaient à une première période de ma recherche. Parce que à la différence des marxistes qui ont signé contre moi ou des crypto-marxistes, moi je n'ai pas une vérité inscrite une fois pour toutes. Moi je ne suis pas un homme de dogme, je ne suis pas un homme de catéchisme. Moi je suis un homme libre. Et en fonction de mes découvertes scientifiques, ma pensée évolue. Comme elle a évolué sur la définition de la colonisation. Et ces gens-là prenaient une partie de ma démarche intellectuelle pour attaquer ce que j'écris depuis 10 ans ou depuis 15 ans, ce qui est totalement aberrant. Alors, je suis tombé des nues voyant cela, et une gigantesque campagne de presse a été lancée. Télévision, radio, j'ai été insulté, j'ai été traîné dans la boue, j'ai été diffamé. On a manifesté à l'université pour demander qu'on me le mette à la porte, etc. Bon, j'ai fait front, bien sûr. Moi, je suis un vieux combattant. J'en ai vu d'autres. Vous savez, quand vous avez été au milieu des émeutes, des émeutes ethniques du Rwanda, et quand au milieu de la nuit, vous êtes retrouvé avec la moitié de vos étudiants morts, décapités ou éviscérés, c'est pas une pétition de 55 clampins qui peut vous émouvoir. Hein. Ça vous fait pas rire, ça vous attriste. Parce que vous voyez que l'université française est tombée à un niveau absolument nul. L'on mesure là la secondarisation de l'université française. Ce que je dis est très grave. Parce que l'on n'aurait jamais vu ça il y a 20 ans. À force de recruter des gens du primaire dans le secondaire et du secondaire dans l'universitaire, on en arrive à une secondarisation de l'université. C'est-à-dire que l'on voit aujourd'hui dans l'université française des réactions syndicalistes qui jusque-là se trouvaient au niveau des classes de quatrième ou de troisième. Et l'on voit que l'université est gagnée par cette... Le SNES tient tout. Le corps unique de la maternelle au Collège de France est arrivé. Et nous universitaires, sommes maintenant quasiment minoritaires. Et nous voyons que ces concepts secondaires, avec toute cette notion syndicaliste, revendicative et politique, est en train de prendre le pouvoir. C'est la mort de l'université française. L'esprit libre, l'esprit d'analyse, nos libertés universitaires sont en train de mourir. Et cette affaire le montre bien. Donc j'ai fait front. J'ai fait front en donnant des interviews et surtout en donnant un droit de réponse au Monde. Car l'on a dit beaucoup de choses, mais ce que j'ai dit moi dans le Monde, c'est moi qui l'ai écrit. Hein. Donc c'est un droit de réponse qui était bien carré, bien précis. Et puis j'ai contre-attaqué en justice. Car bien évidemment, j'ai poursuivi immédiatement dans les 72 heures les 55 signataires de cette pétition et les initiateurs. Donc j'ai lancé des procédures, de lourdes procédures, ça va mettre des années. Parce qu'il va falloir que des commissions rogatoires soient désignées, il va falloir que ces gens soient convoqués par le juge d'instruction, ça va prendre des années. Mais ceci est très long, mais il fallait le faire. Et puis j'ai contre-attaqué également grâce aux amis de Radio Courtoisie. Et là, je dois dire que je suis très ému parce que...
Alors, c'est la question que je voulais vous poser, parce que nous avions lancé un appel lors de notre dernière émission à une mobilisation des auditeurs de Radio Courtoisie, et quel a été l'écho?
Inimaginable. Inimaginable. Je ne veux pas donner de chiffres. C'est considérable. Une mobilisation, mais ce sont des centaines de lettres.
Donc cet appel a été entendu.
Oui. Des centaines de lettres, des témoignages d'amitié, des témoignages réels, des aides. Des dizaines d'abonnements à l'Afrique réelle en plus, mais bon, je dois dire que je suis encore sous le choc de voir que les gens se sont mobilisés, les gens ont compris l'enjeu, les auditeurs de Radio Courtoisie ont compris l'enjeu, parce que l'enjeu est fondamental. Certains auditeurs nous pose des questions parfois pendant l'émission, de vous parler de l'Afrique, l'Afrique c'est loin. Non, 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 l'Afrique ce n'est pas loin. Ce qui se passe en Afrique c'est fondamental. Moi je tiens le nid de mitrailleuse qui est devant le donjon. Et quand mon nid de mitrailleuse va tomber, eh bien les sapeurs vont miner le donjon. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu le film Aux frontières des Indes, un vieux film qui est sorti dans les années 1950 quand des Anglais faisaient ces films superbes, où l'on voit les patents qui attaquent le poste anglais. Et l'on voit les deux nids de mitrailleuses tenus par les sergents gallois qui défendent. Mais quand ils sont submergés, eh bien le poste tombe après. Eh bien, si, à l'heure actuelle, moi je perds ce combat sur l'africanisme, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants seront condamnés à payer des indemnités au nom de crimes que leurs grands-pères n'ont pas commis. Au nom de l'esclavage, au nom de la colonisation, parce que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est fondamental. De par ma formation universitaire, je vois les choses avant le grand public, parce que je lis les publications, je suis au cœur des publications. À l'heure actuelle, vous avez une contre-histoire, et c'est pour cela que cette offensive est lancée contre moi, parce que je suis un veilleur, parce que j'agite le tocsin, je vois avant les autres, tout simplement parce que je suis universitaire, c'est mon métier de voir cela avant les autres. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'une contre-histoire de l'Afrique est en train d'être mise en place. Elle est déjà dominante aux États-Unis. C'est l'afrocentrisme. Et cette histoire est en train de devenir dominante en Europe. Quelle est-elle, cette histoire ? L'Afrique est effectivement dans une situation apocalyptique. Ce n'est pas la faute de l'Afrique. C'est la faute des gens qui ont fait subir à l'Afrique les épreuves qu'elle a connues. Quelles sont les épreuves ? L'esclavage et la colonisation. Esclavage et colonisation qui sont des crimes contre l'humanité. Au Congrès international de Durban, l'on a parlé de crimes contre l'humanité. Alors, j'allais dire, heureusement pour les Européens, les délégations du tiers-monde ont été tellement révolutionnaires et ont tellement attaqué tous azimuts que les Américains et les Israéliens sont partis. Parce que ce congrès, ce colloque, était un colloque d'un antisémitisme outrancier qui a fait que les Américains et les Israéliens sont partis. Mais le prochain colloque sera un colloque dans lequel les attaques contre Israël seront nettement plus gommées, de façon à davantage cibler les attaques contre la colonisation et contre l'esclavage. C'est un rodage à l'heure actuelle qui s'est passé. Et nous allons être condamnés. Aujourd'hui, l'esclavage est devenu un crime contre l'humanité, et demain, ce sera la colonisation. Il faudra donc payer des réparations. C'est un combat essentiel, et les auditeurs de Radio Croisière ont bien compris, parce que si je subis toutes ces attaques à l'heure actuelle, c'est parce que je suis le seul universitaire à le dire. Je ne suis pas le seul à le savoir, mais le problème est que nous avons affaire à un véritable terrorisme. Quels sont les universitaires qui vont accepter, comme moi, de casser leur carrière pour dire la vérité ? Il est bien évident que si j'avais continué à travailler sur l'archéologie du Rwanda, je n'aurais pas eu de problème de carrière. Mais à partir du moment où je suis sorti de ce domaine hyper scientifique, et à partir du moment où j'ai commencé à parler des grands phénomènes africains, j'ai attaqué l'idéologie dominante qui tient tout en histoire africaine. Et comment tient-elle tout ? Il faut que nos auditeurs comprennent bien que le recrutement universitaire est un recrutement endogamique. Il y a un Conseil national des universités qui recrute les universitaires. L'histoire de l'Afrique fait partie de la section d'histoire contemporaine. L'histoire contemporaine est complètement aux mains des marxistes, ou des crypto-marxistes, ou des anciens trotskistes. Vous ne pouvez pas être recruté en histoire africaine si vous n'avez pas payé votre droit de passage aux tenants de cette idéologie. Soit vous êtes vous-même membre de cette mouvance idéologique, soit vous donnez des gages. À partir de ce moment-là, ils tiennent tout. Ils s'auto-recrutent, ils ne citent que leurs travaux, et les quelques francs-tireurs comme moi sont mis à l'écart. Ils ont commis une erreur fondamentale, c'est de me laisser passer comme maître assistant, comme maître de conférence il y a 15 ans.
Ils ne savaient pas.
Ils le savaient. Non, ils ne le savaient pas.
Et ils n'avaient pas compris.
Ils n'ont pas compris. Ils ont commis cette erreur totale. Et maintenant, comment faire?
Maintenant, ils savent.
Maintenant, ils savent. Comment faire pour corriger cette erreur? Me bloquer dans ma carrière. Ensuite, m'isoler en disant ce que dit Lugan, ce n'est pas scientifique. Et interdiction de participer à des jurys de thèse avec moi. C'est-à-dire, aucun africaniste ne peut siéger dans mes jurys de thèse. Vous rendez-vous compte? Mes livres ne doivent pas être cités dans les bibliographies des étudiants.
Et ils sont fous furieux parce qu'ils sont cités.
Et ils sont cités. Il y a 5 ans, pour la revue L'Information Historique, qui est une des revues professionnelles, j'ai fait les corrigés du concours d'agrégation sur 2 questions africaines. Ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. Donc, ils aient la mort scientifique, de façon à complètement m'isoler. Et dire ensuite, regardez, Lugan est un farceur qui n'est pas reconnu par ses pairs. Mais mes pairs, je les méprise profondément. Car mes pères sont des trotskistes, des marxistes, des tiers-mondistes qui se sont toujours trompés. Parmi mes pères, j'ai quand même les gens qui ont les mains dégoulinantes du sang du massacre du Rwanda. Par leurs interprétations qui mettent en avant le fait qu'il n'y a pas d'ethnie en Afrique. Que les Tutsis et les Hutus, c'est une création de la colonisation. Que c'est un phénomène économique. Voilà ces gens, voilà qui sont les gens qui tiennent l'histoire africaine. Donc l'enjeu est considérable. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est que après moi, il n'y aura personne. Donc ils ont gagné sur la longueur. Parce que, bon, si Dieu me prête vie, je tiens ma place. Mais il n'y a pas de relève derrière moi. Il est impossible d'avoir une relève en histoire africaine. Car un jeune étudiant qui voudrait faire de l'histoire africaine d'une manière concrète et d'une manière réaliste, comme je la fais, n'a aucune chance. Il ne sera jamais universitaire. À telle enseigne que quand je vois passer un bon étudiant, je lui dis, vous quittez tout de suite mon université et vous allez vous inscrire ici ou là ailleurs. Et si l'on vous parle de moi, surtout dites du mal de moi. Ne jamais dire, ah mais finalement c'est intéressant ce que dit Bernard Lugan, vous êtes mort. Vous arrivez avec ce passeport de dire, Bernard Lugan dit des bêtises. Si on vous pose la question, dites Bernard Lugan dit des bêtises. Et là, vous avez une chance de passer. Nous vivons dans un monde, c'est le stalinisme le plus total, mais le stalinisme au grand sourire.
Oui, feutré.
Feutré. Et ceci est tout à fait intéressant. Alors, voilà pourquoi nous sommes au cœur de cette attaque. Et cette attaque est une attaque qui est unique dans l'histoire de l'université française. On n'a jamais vu cela. Simplement, ils ont perdu. Ils ont raté pour 2 raisons. Première raison, c'est que moi je ne suis pas émotif et qu'une campagne médiatique ne me fait pas peur. Ils sont très mal tombés avec moi. Première raison. Deuxièmement, ils sont sur mon terrain. Et là, sur mon terrain, j'accepte tous les défis.
Alors justement, vous leur avez lancé un défi.
4 fois. Par 4 fois, par l'AFP, communiqué de presse. Et puisque je suis attaqué, eh bien écoutez, banco. 100 balles pour suivre, comme on dirait au poker. Très bien, discutons-en. Je vous prends les 55, dans un amphi, n'importe où, à Lyon, à Paris, où vous voulez. Vous venez, les 55. Et je serai en face, tout seul. Et vous me dites l'un après l'autre, Monsieur Lugan, vous n'êtes pas un scientifique pour telle, telle, telle raison. Et je vous répondrai. Et on verra, à l'issue de ce duel, parlons de duel, ou de cette confrontation intellectuelle, qui aura raison. Peut-être aurais-je perdu. Mais moi, je suis un scientifique, je suis tout à fait prêt à reconnaître que je me suis trompé, si je me suis trompé. Je ne suis pas un dogmatique. Eh bien, ils ont refusé, ils se sont dégonflés. Alors voilà des gens qui lancent une pétition, qui attaquent mon honneur, qui attaquent ma probité professionnelle, qui attaquent mes compétences professionnelles. Des gens qui n'ont pas le 1/10 de mes publications, à part 1 ou 2. Des gens qui n'ont... 50% d'entre eux se trouvent ne même pas avoir le doctorat. Vous rendez-vous compte. Il y a même parmi eux des doctorants. Un doctorant, c'est un étudiant qui a sa maîtrise et qui va avoir un doctorat. J'ai quand même mon doctorat d'État, j'ai 2 doctorats, j'ai 20 publications, 20 livres, j'ai fait plusieurs atlas, j'ai des centaines de publications scientifiques, j'ai participé à des colloques dans tous les pays du monde, je suis expert internationalement reconnu. Non, les doctorants se permettent de dire que je ne suis pas scientifique. Nous vivons dans un drôle de monde. Eh bien, ils se sont dégonflés. Et ils savent très bien qu'ils se dégonflent, parce que lorsqu'on va discuter de choses concrètes, eh bien, on va commencer à voir qui a raison et qui a tort. Alors nous en sommes là. Nous en sommes là, et maintenant l'affaire est entre les mains de la justice. Moi, je ne peux rien faire de plus. Il se dérobe à la demande de discussion, l'affaire est entre les mains de la justice. Et moi, je continue mon chemin sans état d'âme. Voilà où en est la situation. Et je dois dire que dans ce contexte, l'aide qui m'a été apportée par les auditeurs de Radio Courtoisie est tout à fait extraordinaire. C'est un soutien. Nous avons fait une réunion publique à Paris il y a un mois. La salle était comble. Vraiment, c'est tout à fait important. Et j'ai reçu des lettres de gens très importants dans le domaine africaniste, etc. Pour le moment, je ne veux pas créer de comité de soutien. Je préfère rester homme seul, face à la meute. Mais je tiens à la meute, hein, je la tiens en respect.
Oui, alors que vous avez reçu, je crois, des témoignages de plusieurs universitaires.
Ah oui, j'ai reçu des témoignages, pas d'africanistes, parce que j'ai reçu des témoignages de médecins tropicalistes, de géographes, de littéraires. J'ai même reçu des témoignages, vraiment, je ne peux pas en faire état à la radio, de gens qui comptent véritablement. Vous voyez, j'ai eu les témoignages des gens qui comptent le plus dans les milieux africanistes. Les grands africanistes français, géographes, ethnologues et autres, m'ont écrit en disant, c'est absolument scandaleux, nous sommes avec vous. J'ai contre moi les troisièmes couteaux de l'africanisme, ou alors quatre ou cinq grands noms de l'africanisme, mais qui sont des vieux marxistes et qui ont toujours été des adversaires. Et je sortirai ces noms au tribunal, bien entendu. Lorsque le procès aura lieu, je sortirai ma liste de soutien. Voilà ce que nous pouvons dire pour le moment. Mais en fait, le cœur du problème également, c'est l'affaire qui a été lancée par le président du Sénégal. Vous me posiez la question tout à l'heure, le président du Sénégal, Maître Wade, qui, lors du congrès de Durban, a fait trois interventions, et toutes les trois ont été consacrées à ma modeste personne. Et le président Wade est un drôle de personnage. Je sais bien, c'est une coqueluche d'une certaine droite française. Le président Wade, après avoir été, dans sa jeunesse, quelqu'un de marxiste de l'aile la plus ultra, après avoir été l'avocat du FLN français, après avoir été le soutien du MPLA contre Jonas Savimbi, est supporté par une certaine droite française parce qu'il est devenu libéral au point de vue économique. C'est l'ami de M. Madelin, par exemple. Le président Wade est un personnage qui est tout à fait bizarre parce que, il y a 10 ans, nous avons eu un débat tous les deux. Un débat devant les chaînes de télévision africaines, et le débat s'était tenu dans les locaux du quotidien de Paris, un quotidien qui a disparu depuis. Et à l'issue de ce débat, le quotidien de Paris a publié une double page avec les meilleurs extraits et les meilleurs extraits de notre débat. Et je le publie, ce débat, intégralement dans le prochain numéro de l'Afrique réelle. Et l'on voit bien, dans ce débat, que Maître Wade est pulvérisé scientifiquement. Par exemple, Maître Wade me pose la question suivante. Oui, vous dites que l'Afrique noire n'a rien inventé, me dit-il. Vous avez raison, me dit-il, vous avez raison si vous considérez que l'Égypte et que Méroé ne sont pas noirs. Alors je lui dis, Maître, l'Égypte n'est certainement pas noire. Méroé est effectivement noir. Il me dit, mais à ce moment-là, vous avez donc tort de dire que l'Afrique n'a rien inventé, car Méroé a influencé l'Égypte. Et je lui dis, mais comment voulez-vous que l'Égypte, née en 3700 avant Jésus-Christ, puisse être influencée par Méroé, née en 600 avant Jésus-Christ? Oui. Voilà toute l'argumentation. Et donc, Maître Wade est pulvérisé dans ce débat scientifique. Et à la conférence de Durban, donc il y a quelques mois, il prend la parole pour dire, et je vais citer intégralement dans l'Afrique réelle ses déclarations, « J'ai fait plier Bernard Lugan, j'ai fait plier le professeur raciste Bernard Lugan, qui a reconnu à la fin du débat ses erreurs et qui a reconnu que j'avais raison. » Nous avons affaire à un battleur. D'ailleurs, le président Wade est un battleur. Et c'est un battleur qui est arrivé au pouvoir au Sénégal tout simplement parce qu'il s'est trouvé dans des circonstances tout à fait exceptionnelles d'une usure du pouvoir du président Abdou Diouf et de son équipe. Et là, arrivé au pouvoir, il est totalement incompétent. Il est complètement dépassé par les événements. Et il a indisposé la moitié des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest et rendu circonspect l'autre moitié. Et comme il a perdu son action politique à l'intérieur du Sénégal, il essaie de faire ce qu'il a toujours fait lorsqu'il perdait intérieurement au Sénégal. Il essaie de se replacer sur le domaine international. Et il a trouvé, dans la conférence de Durban, un moyen de se relancer, d'apparaître comme le chantre de l'africanocentrisme face aux idées coloniales ou colonialistes européennes, etc. Et il m'a attaqué. Avec une mauvaise foi totale, dans la mesure où il dit le contraire de ce qu'il disait dans ce débat, parce que l'on verra bien dans ce texte que je publie, que les auditeurs de Radio Courtoisie, les abonnés vont le recevoir, vont bien voir ce texte. Le débat a été courtois. Deux idées différentes de l'Afrique, mais les auditeurs verront bien qui l'a emporté dans ce débat.
Oui, mais derrière cette opération politicienne du président Ouad, il y a, comme vous le disiez à l'instant, un enjeu qui est de beaucoup plus grande importance.
Tout à fait. Cet enjeu, c'est de faire payer les Européens. L'enjeu...
C'est à la fois de les faire payer... Et c'est aussi de les détruire mentalement, de les culpabiliser plus encore.
Si le courant de Durban l'emporte, non seulement nos enfants et nos petits-enfants seront pour l'éternité condamnés à payer une dette à l'Afrique, des réparations à l'Afrique, mais encore, ils seront condamnés à se laisser envahir sans avoir même le droit de riposter ou de trouver que ce n'est pas normal. Parce que l'idée qui est en train d'être imposée, c'est après le mal que vous avez fait à l'Afrique avec l'esclavage, avec la colonisation, il est juste que vous en subissiez en retour aujourd'hui les conséquences. Car l'idée officielle qui est apparue à Durban, et je publie dans l'Afrique réelle le discours de Fidel Castro, le discours de Bouteflika et les trois discours de Ouad. C'est tout à fait extraordinaire. Ouad, Fidel Castro et Bouteflika expliquent bien. L'Europe est coupable. L'Europe doit payer. L'Europe doit être condamnée pour ce passé historique. Et l'idée est tout à fait simple. L'Europe a fondé sa richesse sur l'esclavage. Et ensuite, l'Europe a fondé sa prospérité actuelle sur la colonisation. Deux erreurs absolues. Je l'ai démontré déjà. Mais cette idée est une idée qui est imposée dans les médias. Et pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui porte la contradiction, eh bien, on essaye de me détruire scientifiquement. Voilà, l'enjeu est très clair. L'enjeu est très clair. Et il se situe là. Il est entre une certaine école africaniste française... Et j'allais dire, et moi, qui représente peut-être une école africaniste française, mais qui représente surtout une approche africaniste qui est davantage anglo-saxonne que française. Parce qu'en fait, le problème est très simple. Qui sont les africanistes français? À l'exception des géographes, qui sont des très grands, souvent des très grands. À l'exception des ethnologues, qui sont souvent des très grands. À l'exception des archéologues et des paléontologues, qui sont souvent des très grands. Les historiens africanistes français sont des minables. La plupart sont des minables. Ce sont des gens qui travaillent en histoire contemporaine sur de tout petits domaines, minuscules, qui travaillent sur un confetti de l'Afrique et qui font toute leur carrière sur un confetti. Ce sont des gens qui sont bloqués dans des toutes petites périodes. Je l'ai déjà dit 10 fois sur l'antenne de Radio Courtoisie, mais le cas emblématique est le suivant. Vous avez des africanistes français qui font leur thèse et leur publication et qui n'ont quasiment jamais mis les pieds en Afrique, qui vont travailler par exemple sur la grève des dockers du port de Dakar entre 1930 et 1950.
Sujet passionnant.
Vous avez parmi les auteurs, les signataires de la pétition, vous avez une de mes collègues sur le statut de la femme africaine à l'époque coloniale. C'est tout à fait intéressant. C'est passionnant. Mais est-ce que ça fait avancer l'histoire africaine? Vous avez les gens qui vont travailler sur la poste de Bobo Dioulasso entre 1926 et 1948. Il pourrait aussi bien travailler sur la gare de Tulle ou sur la grève des dockers du port de Marseille. J'ai vu passer J'ai fait partie du CNU il y a quelques temps, il y a quelques années.
Qu'est-ce que le CNU ?
Le Comité National des Universités qui recrute les universitaires. J'en ai démissionné à un moment de l'affaire Boudarel parce que j'ai démonté la machination à l'époque. Car Boudarel, qui était professeur de philosophie, s'est retrouvé professeur d'histoire avec la complicité des gens du CNU. Et quand j'ai réussi à mettre en évidence cette complicité, j'ai fait un article dans le Figaro et j'ai démissionné car je ne voulais pas cautionner cela. Je dois dire que on se venge à l'heure actuelle de cette affaire également.
Certainement.
Parce que, comprenez, quand vous crachez dans la soupe, c'est assez mal vu. Quand vous avez la chance d'être dans le CNU, votre carrière est douillettement créée, douillettement installée, et moi j'étais au CNU, et j'en suis parti en claquant la porte, en disant que je ne cautionnais pas des manœuvres pareilles, et tant pis pour ma carrière, mais quand on voit comment un philosophe est devenu historien par la bonne grâce du CNU, l'on voit très bien comment sont gérées les carrières universitaires françaises. Alors, ceci étant, le problème est tout à fait fondamental parce que nous avons affaire, d'un côté, à des gens qui sont quasiment tous en histoire contemporaine. Et souvent des chercheurs, parce que parmi les 55 signataires, il y a peu d'universitaires. L'immense majorité est composée de chercheurs du CNRS. Bien souvent, les chercheurs du CNRS, dans ces disciplines, sont des gens qui sont incapables de faire un cours. Bien souvent, ce sont des agoraphobes, des caractériels, ou des gens qui sont incapables de tenir un amphi. Alors on les met au CNRS, dans leur laboratoire, au moins ils ne sont pas en contact avec les étudiants. Parmi ces 55, il y a de nombreux agoraphobes. Il y en a d'autres qui n'ont pas fait leur thèse, il y en a qui ont des thèses sur travaux, et puis il y a 2 ou 3 caractériels que tout le monde connaît dans la profession, et d'autres qui ont d'autres petits défauts dont nous parlerons au tribunal lorsque nous aurons à nous confronter les uns aux autres. Mais ces gens-là sont tous des gens qui travaillent, je l'ai dit, sur des confettis. Or, moi je travaille sur une conception complètement différente de l'histoire de l'Afrique. Ma chance est de connaître intimement l'Afrique centrale et orientale, de connaître intimement l'Afrique méridionale et australe, de connaître intimement l'Afrique du Nord saharienne, de connaître intimement l'Afrique du Nil. Je connais toutes ces Afriques, ce qui fait que je vois les choses, je mets les choses en perspective, je mets les choses en rapport. J'ai une vision, par mes connaissances régionales, j'ai une vision globale. Alors qu'eux n'ont que des visions régionales, et sur lesquels ils plaquent leur...
parcellaire, oui.
Leur vision parcellaire. J'ai une vision qui est beaucoup plus proche de celle des anglo-saxons. Et lorsque l'on voit les publications qui sont faites à Oxford ou à Cambridge par mes collègues britanniques, je me retrouve dans ces publications. Je ne me retrouve pas dans les publications de l'africanisme français. Chez les historiens contemporanéistes, attention, lorsque nous parlons des préhistoriens, lorsque nous parlons des ethnologues, lorsque nous parlons des géographes, c'est totalement différent. Là, nous avons encore des grands noms. Mais ce qui tue l'africanisme français, c'est justement cette coupure entre 4 périodes, et l'africanisme est rattaché essentiellement à la période d'histoire contemporaine, qui est une période complètement tenue par les marxistos, trotskos, tiers-mondistos, tout ce que vous voulez, ces gens qui ne font pas de l'histoire, mais qui se servent de l'histoire pour faire passer leur idéologie.
Quand paraîtra...
Pardon ?
Non, Dominique. Quand paraîtra le prochain numéro de l'Afrique réelle ?
Eh bien, le prochain numéro de l'Afrique réelle est en cours d'impression. Il va sortir, je donne le bon à tirer, lundi prochain. Les abonnés vont le recevoir dans une quinzaine de jours, je pense. Et c'est un numéro qui va être important.
Alors, quel sera le contenu ?
Oui, un sommaire important. Retour sur l'afrocentrisme. Parce que j'ai reçu de très nombreuses lettres d'abonnés après le dernier numéro consacré à l'afrocentrisme. Et des abonnés qui me posent des questions sur les origines de l'Égypte, etc. L'Égypte noire, l'Égypte n'est pas noire, l'Égypte proto-berbère. Quelle est l'origine de l'Égypte ? Donc, retour sur l'afrocentrisme. Je publie l'intégralité du débat Ouad-Lugan de 1990 dans le quotidien de Paris. Je publie l'intégralité des déclarations du président Ouad à Durban, celle de Castro et celle de Bouteflika. Alors, tout ceci mis ensemble, magnifique. On voit véritablement cette grande manipulation tiers-mondiste. Je publie un dossier très important sur le Zimbabwe, avec le terrorisme, le racisme anti-blanc, les malheureux fermiers qui vraiment vivent une période épouvantable, qui n'a pas été dénoncé à Durban. Et je publie, nous en avions parlé lors de notre dernière émission avec le commandant Muel, vous en souvenez, Dominique?
Oui, parfaitement.
Une étude fondamentale sur les événements d'octobre 61. Le soi-disant massacre des Algériens de Paris en octobre 61. Et je publie une étude du lieutenant-colonel Montané. Ben, c'est lui qui a fondé les Harkis de Paris, la force de police auxiliaire, c'était les Harkis de Paris, et qui analyse véritablement ce qui s'est passé ce jour-là, qui donne véritablement les chiffres, qui fait l'analyse d'homme du terrain et de l'intérieur de ce qui s'est passé, et qui réduit complètement à néant les accusations qui ont été portées par ces réseaux de porteurs de valises, par les frères des frères, etc. Et là encore, nous sommes en pleine vérités et légendes. C'est un numéro de réfutation que nous publions, un numéro de combat. Parce qu'il faut maintenant, nous sommes dans le combat. Tous les matins, quand nous nous réveillons, disons-nous bien, la première pensée que nous devons avoir à l'esprit, c'est « nous sommes en guerre ». Nous sommes en guerre, on nous fait la guerre, et il faut bien penser que maintenant tous nos actes sont des actes de guerre, dans un contexte de guerre que l'on nous fait, et ce numéro est un numéro de réfutation. Ce sont des munitions que je donne à nos amis pour véritablement pouvoir combattre. Parce que l'histoire de l'Afrique est un élément fondamental. Contrairement à ce que vous pouvez imaginer, chers auditeurs de Radio Courtoisie, car vous êtes nombreux à me dire « Bon, c'est intéressant ce que vous dites sur l'Afrique, mais enfin, il y a d'autres problèmes que l'Afrique. » Non, 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 non. Souvenez-vous de ce que disait l'ancien ministre de la coopération, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Monsieur Jobert, avec son esprit, que reste-t-il de l'héritage colonial de la France? On lui posait la question, il répondait Barbès-Rochechouart. Oui. Mais non seulement il nous reste Barbès-Rochechouart, mais il nous reste surtout la culpabilisation que l'on veut nous imposer. Et là, si nous ne nous battons pas là-dessus, si nous ne bloquons pas cette offensive, ce seront d'autres mythes incapacitants qui vont être plaqués sur nous. Donc il faut nous battre. Et ceci est fondamental. Et c'est pour cela que je donne ces arguments, et c'est pour cela que l'Afrique réelle consacre ce numéro quasiment à une réfutation des grands mythes de l'accusation qui est portée contre l'Europe.
Pouvez-vous rappeler l'adresse de l'Afrique réelle?
Alors l'Afrique réelle, c'est boîte postale numéro 6, boîte postale numéro 6, 03 140 à Charroux, boîte postale numéro 6, 03 140 à Charroux, et le prix de l'abonnement est de 380 francs pour 4 numéros. Alors les auditeurs qui s'abonneraient maintenant recevraient tous les numéros de l'année 2001. L'abonnement est annuel. Et je signale également, pour les auditeurs qui seraient intéressés, qui ne voudraient pas s'abonner, mais qui seraient intéressés, je peux leur faire parvenir un tiré à part du dossier WAD. Il suffit de m'écrire à l'Afrique réelle et je ferai parvenir un tiré à part du dossier WAD, de façon à ce que les auditeurs aient véritablement entre les mains les déclarations faites à Durban par le président Wade, le débat que nous avions eu à l'époque en 1990 dans le quotidien de Paris, de façon à bien cerner le problème.
Vous allez sûrement recevoir de nombreuses demandes.
Oui, des questions, Victoria?
Est-ce que c'est justement, un auditeur souhaiterait acheter le fameux numéro de l'Afrique réelle sur l'afrocentrisme?
Oui, mais il suffit de m'écrire.
Donc,
ces numéros sont disponibles. Oui, vous m'écrivez.
Et un autre demande s'il peut s'abonner. S'il s'abonne, s'il est possible d'avoir les 4 derniers numéros de l'Afrique réelle.
Oui, parce que l'abonnement est annuel.
Oui.
Donc tout abonnement souscrit avant le 31 décembre donne droit aux 4 numéros de l'année 2001. Donc plus celui qui va sortir dans 15 jours ou 3 semaines.
Très bien.
Les abonnements sont annualisés, c'est très clair, c'est très facile, vos bonnes gestions. Autrement, c'est ingérable. Hein. Si.
Et un auditeur demande ce qu'il faut faire, qu'il peut faire pour vous soutenir, pour vous aider.
Mais écoutez, ce que sentiront les auditeurs, disons-le clairement, j'ai été aidé de plusieurs manières depuis la dernière émission. J'ai été aidé par des messages de soutien qui font toujours plaisir. J'ai été aidé par des abonnements. J'ai même été aidé par des dons. Je dois dire que les dons qui m'ont été faits vont me permettre de faire un procès de plus. Et c'est fondamental.
Oui, mais ça, je crois qu'il faut le dire, et c'est peut-être difficile, à vous, Bernard Lugan, de le dire, mais je vais le dire. Je sais ce que sont des procès, et les procès que vous avez engagés, évidemment, vont vous coûter cher, vous coûtent cher dès maintenant, ça représente des sommes qui sont considérables, et à titre personnel, vous ne pouvez pas faire face à cela. Il est indispensable que vous bénéficiez d'un soutien de tous ceux qui comprennent l'enjeu de ce combat.
Pour donner un exemple, les auditeurs ignorent cela, mais vous faites un procès. Je suis obligé de faire un procès, une plainte contre X. Quand vous déposez une plainte contre X, vous devez consigner une somme. Une somme qui peut être considérable, qui peut être de 10 000 francs, sans compter les frais d'avocat, sans compter les frais de procédure. Avant de commencer votre procès, vous en avez déjà pour 30 000 francs. Et si je ne fais pas mes procès, je suis broyé sous le rouleau compresseur de l'ennemi. Donc je suis obligé de faire des procès. Et il y a un moment où ça devient difficile. Donc c'est pour cela que cette aide que je peux recevoir, c'est une aide au combat. Et ce sont des munitions qui permettent d'entamer des procédures. Alors que les auditeurs ne s'imaginent pas que l'Afrique réelle est en danger. Pas du tout. L'Afrique réelle va très bien. Je demande pas du tout de. C'est pas pour l'Afrique réelle.
Non, c'est pour les procès.
Plus il y aura d'abonnements à l'Afrique réelle. Et mieux la revue se portera, mais ces procès coûtent de l'argent. Et c'est un combat inégal, parce qu'en face de moi, en face de moi, j'ai soit des associations, soit des journaux, soit des groupes qui, eux, ont tous les moyens. Donc c'est le combat de l'homme seul contre les groupes. Donc l'enjeu est fondamental et les auditeurs ont bien compris qu'il était fondamental puisque je vois l'aide que je reçois qui montre bien que les auditeurs l'ont compris. Et nous gagnerons parce que moi je suis résolu à me battre, je suis un combattant et tant qu'ils ne m'auront pas tué, ils ne m'auront pas. Hein. Beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur et tout ce qui ne tue pas renforce.
Pouvez-vous redire combien on doit vous envoyer pour obtenir un numéro spécimen?
Non, numéro spécimen.
Donc ils vous font une demande.
Oui, il suffit de m'écrire à l'Afrique réelle. Voilà. Plus d'autres questions d'auditeurs?
Non, il y a beaucoup de commentaires sur ce que vous avez dit, mais bon.
Bon, écoutez, nous allons faire une petite pause musicale et nous verrons ensuite. Je crois qu'il y a quelques remarques ou quelques questions d'auditeurs. Lisez-les à la suite et je répondrai en un seul bloc.
Tous mes compliments et encouragements au professeur Lugan pour son combat. Vous nous aviez annoncé un article sur l'esclavage pour la prochaine parution. Qu'en est-il? Pouvez-vous nous indiquer un livre valable sur l'histoire de l'esclavage?
Alors, sur l'esclavage, le prochain, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, j'ai oublié de dire que le cœur du prochain numéro de l'Afrique réelle est consacré à l'esclavage. Donc c'est un numéro quasiment spécial sur l'esclavage avec la traite occidentale, atlantique, et la traite musulmane. Donc un dossier qui fait le point sur la traite et surtout sur les partenaires africains de la traite. Dans ce dossier, nous montrons comment les royaumes africains étaient les pourvoyeurs d'esclaves pour les Européens. Donc un numéro très important. J'ai oublié de le dire, mais c'est l'essentiel du contenu du prochain numéro qui va sortir ces jours-ci.
J'invite le professeur Lugan à étudier les archives belges pour s'apercevoir que les Hutus et les Tutsis ont été créés par le gouvernement belge pour attiser les antagonismes et ainsi avoir les mains libres au Rwanda, chose que M. Bernard Lugan ne pourra, s'il les insère, démentir.
C'est une gigantesque fumisterie. Dire que les Tutsis et les Hutus ont été créés par les colonisateurs, ça revient à dire que les Berbères et les Arabes ont été créés par le général maréchal Lyoté, que les Arvernes et autres tribus gauloises ont été créées par les Romains. Non, c'est une fumisterie. C'est l'idée actuelle qui est tentée, que l'on tente d'imposer à nos esprits, quel est le fond du problème? Les tiers-mondistes, les marxisto-trotskistes qui tiennent l'histoire africaine ne peuvent plus nier le fait ethnique. Ils ont essayé de le nier pendant 20 ans. Ils ne peuvent plus, parce que tous les jours, il suffit de lire les journaux, et cette vérité ethnique leur éclate à la figure. Donc, il faut tout de même continuer à culpabiliser les Occidentaux, les Européens, et puisqu'il y a des problèmes ethniques en Afrique, c'est parce que les Européens ont créé l'ethnisme, c'est très simple. Alors, comment ont-ils créé l'ethnisme, et pourquoi? Pour diviser. Et dans le cas du Rwanda et du Burundi, quelle est l'idéologie officielle qui est à l'heure actuelle en train d'être imposée? Il y avait des Hutus et des Tutsis avant la colonisation, certes, mais c'était une spécialité économique. Vous voyez, toujours la vieille conception marxiste. Et les missionnaires et les Belges, avec l'esprit faussé par le soleil d'Afrique, ont fait d'une distinction économique une distinction raciale, ethnique ou morphotypique. Voilà pourquoi votre fille est muette. Voilà pourquoi certains mesuraient 2m10 et d'autres mesuraient 1m60. Voilà pourquoi les Tutsis et les Hutus massacrent. C'est une aberration. C'est un négationnisme de la réalité historique le plus total. Malheureusement, c'est l'idée qui est en train d'être imposée à nos esprits. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, il est fondamental de ne pas perdre le terrain en histoire africaine. Car si nous perdons le terrain en histoire africaine, si nous perdons le combat sur le terrain, dans 10 ans, la colonisation sera un crime contre l'humanité et les luttes ethniques seront le résultat de la colonisation. Car on nous accusera d'avoir créé les ethnies.
Un autre message d'auditeur. Toutes les théories du Cheikh Diop,
De Cheikh Kanta Diop,
n'empêcheront pas une réalité. Le plus grand pharaon égyptien fut Ramsès II, qui était roux. Donc, pas noir.
Oui, mais on sait très bien. Dans le prochain numéro de l'Afrique réelle également, je publie des études qui ont été faites sur des milliers de momies égyptiennes, des études physiques faites sur ces momies. Les Égyptiens étaient des leucodermes, avec des cheveux non crépus. Il y avait bien sûr quelques noirs en Égypte, parce qu'il y avait des mercenaires nubiens, parce qu'il y avait des concubines dans les harems de l'époque. Mais le fond de population de l'ancienne Égypte est un fond méditerranéen, blanc, mais ce n'est pas un fond noir. Les noirs vivaient au sud, contrairement à ce que nous disent les afrocentristes. Terminé, Victoria ?
Encore un ?
Allez-y.
Parmi les détracteurs de Bernard Lugan, il y a Bouteflika, dont les ancêtres étaient des pirates barbaresques, donc des esclavagistes.
Oui, bon, très bien.
Et puis, mais alors là, question pratique. Sur un plan comptable, à quel ordre faut-il établir les chèques pour aider Bernard Lugan ?
Mais le mieux, c'est l'Afrique réelle, parce que tous ces chèques sont versés sur le compte de l'Afrique réelle, parce que j'ai des problèmes de comptabilité, bien évident. Donc, l'Afrique réelle, et ensuite, l'Afrique réelle aide Bernard Lugan dans ses procès. C'est ce qu'il y a de mieux. Voilà.
Pouvez-vous redonner, parce que ça c'est pour un éditeur qui n'avait pas de crayon, l'adresse de l'Afrique réelle ?
Boîte postale numéro 6, 03-140 Charroux. Alors, une dernière chose, je remercie vraiment les auditeurs qui se sont manifestés. En principe, j'ai répondu à tous les auditeurs. J'ai fait une petite circulaire pour tous les auditeurs. Je ne peux pas répondre à tout le monde, je reçois des centaines de lettres. Et merci du fond du cœur. C'est un encouragement au combat et véritablement un dopant pour le combat. Parce que lorsque l'on reçoit ce courrier et ces encouragements, on est porté par l'enthousiasme. On est porté par déjà que on a beaucoup d'enthousiasme, mais là en plus, porté par les auditeurs, c'est formidable. Nous vaincrons.
En ce qui concerne l'afrocentrisme, le numéro spécial dont vous avez parlé, pouvez-vous nous donner le prix, port compris, ainsi que...
Mais je ne l'ai pas en tête. Que l'on m'écrive, je ne l'ai pas en tête. Bien. Nous allons faire une petite pause musicale. Alors, les musiques que vous entendez, les chants, ce sont des polyphonies corses. Aujourd'hui, nous sommes très corses et nous allons accompagner toute l'émission avec cette polyphonie corse qui sont superbes. Nous en écoutons une pendant quelques secondes avant de passer à l'étape suivante de l'émission qui va être consacrée à l'Afghanistan. Libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge de Beketch, dirigé ce soir par Bernard Lugan. Nous recevons Aymeric Choprade, qui est professeur de géopolitique au CID, au Collège Interarmes de Défense, c'est-à-dire l'ancienne école de guerre.
Absolument.
Le nouveau nom du CID, c'est l'ancienne école de guerre. Et Aymeric Choprade, vous êtes un spécialiste géopolitique, vous venez de publier aux éditions Ellipse une véritable somme de 900 pages environ, qui a pour titre « Géopolitique, constantes et changements dans l'histoire ». Et ce livre est fondamental parce que vous êtes vraiment au cœur du problème et vous êtes aujourd'hui notre invité pour nous parler d'une question qui est au cœur de l'actualité, qui est la question de l'Afghanistan. Alors cette question d'Afghanistan est une question qui est fondamentale également parce que depuis 3 siècles, l'Afghanistan se trouve au nœud du contact entre 3 mondes. Le monde russe, l'impérialisme russe qui descend vers le sud, les marches du nord de l'Inde, et depuis 1 siècle et demi, le monde de l'impérialisme anglo-saxon britannique. Et l'on voit que l'Afghanistan, depuis les années 1850 à peu près, a connu toute une série de guerres, toute une série de conflits, qui chaque fois se sont terminés par la défaite de ceux qui s'étaient aventurés dans ces régions lointaines. Même les Britanniques ont échoué. Et pourtant, les Britanniques, eux, connaissaient le terrain. C'était Kipling qui avait cette phrase magnifique qui disait « Le loup d'Afghanistan se chasse avec le chien d'Afghanistan ». Cela voulait dire quoi? Ça voulait dire que les Britanniques, eux, avaient compris que le seul moyen de ne pas s'enliser dans ces guerres ethniques et dans ces guerres familiales, dans ces guerres de vallée à vallée, était précisément de faire battre les Afghans contre les Afghans. Et toute la politique anglaise, à l'époque où il y avait une politique anglaise, aujourd'hui, avec Blair, nous avons le petit chien, le petit caniche qui court derrière le gros chien américain, sans aucune retenue. À l'époque où il y avait une politique anglaise, l'Angleterre était habile à jouer les tribus les unes contre les autres. Aujourd'hui, nous voyons que l'Angleterre n'est plus qu'un nouvel État américain et un porte-avions de l'Amérique en Europe. Alors, le loup afghan se chasse avec le lièvre d'Afghanistan. Ceci veut bien dire que de toujours, en Afghanistan, nous avons eu affaire à des problèmes d'opposition, car l'Afghanistan n'existe pas. L'Afghanistan est un conglomérat de peuples, d'ethnies totalement différentes, et ce sont en fait ces ethnies qui se retrouvent sous des façades politiques à l'européenne, aussi bien l'Alliance du Nord que les talibans, qui représentent en fait la superstructure de réalités ethniques. Alors, pouvez-vous nous parler de cela? Pouvez-vous nous expliquer comment l'Afghanistan, par ses réalités géopolitiques et ethniques, représente un véritable bourbier pour quiconque de l'extérieur veut s'y engager?
Oui, alors l'Afghanistan occupe en Asie centrale une position tout à fait centrale qui l'a placé dans l'histoire à la marge d'influences considérablement importantes. Vous avez cité les trois influences clés, l'influence indienne, l'influence russe et l'influence anglo-saxonne, tout d'abord anglaise, puis aujourd'hui essentiellement américaine. Néanmoins, s'ajoute à ces influences une influence chinoise, une influence iranienne non négligeable. J'aurai l'occasion de parler notamment de la Chine, dont on parle peu, mais qui me paraît aujourd'hui tout à fait essentielle dans cette question. Alors, effectivement, l'Afghanistan, placé autrefois sur les routes de la soie, qu'il y ait l'Europe et le monde d'extrême Asie, a toujours fait l'objet de convoitises. Et de nombreux empires ont cherché à y prendre position. Ils se sont heurtés à un monde extrêmement rebelle, où le relief escarpé, puisque l'altitude moyenne de l'Afghanistan, c'est 1200 mètres, et nombreuses sont les villes qui se trouvent au moins à 1800 mètres d'altitude, donc c'est un relief très difficile, des conditions de vie très âpres. Et puis ils se sont heurtés, comme vous l'avez dit, et je crois que ça c'est la grande permanence de cette histoire afghane, à une mosaïque ethnique qui fait que aujourd'hui il serait bien imprudent de parler de nation afghane. On peut parler d'État afghan, et effectivement ces luttes ethniques ont cherché à constituer en permanence le noyau étatique de l'Afghanistan. Alors, commençons donc par rentrer dans cette réalité, et je vous rejoins tout à fait sur le fait structurant dans l'histoire qu'est la réalité ethnique. La réalité ethnique de l'Afghanistan, c'est d'abord une ethnie majoritaire à 40%, qui est celle des Pashtuns, population d'origine indo-européenne, qui sont aujourd'hui à cheval à la fois sur l'État afghan et se trouvent également au Pakistan. Donc il y a déjà un chevauchement de l'ethnie principale sur deux états, l'Afghanistan et le Pakistan. Cette ethnie Pashtun a traditionnellement constitué le noyau dur, le cœur de l'état afghan. Et c'est en quelque sorte cette ethnie qui incarne une forme de légitimité à gouverner l'Afghanistan. La question étant de savoir si elle doit gouverner l'Afghanistan seule, compte tenu de la mosaïque.
Mais quel est son pourcentage au point de vue démographique?
40% d'une population, donc globale, je ne l'ai pas dit, mais de 20 millions d'habitants, 20 millions d'habitants sur un espace qui fait 100 000 km carrés de plus que la France, donc 650 000 km2, ça fait des densités pas très élevées, donc une population qui représente la France de Louis XIV, hein, à peu près. C'est une ethnie donc qui est territorialisée au centre et au sud, qui est incontournable, qui a constitué le noyau dur de la monarchie afghane installée par l'Angleterre. Et sans cette ethnie, on ne peut rien faire. Bon, deuxième.
Et elle soutient les talibans.
Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est que le premier degré de division, c'est effectivement le degré ethnique, et qu'il y a un deuxième degré ensuite, c'est qu'à l'intérieur des ethnies, on a des divisions tribales. Mmh. Et là, il y a deux groupes qui s'appellent les Durrani et les Gelzei, et qui se disputent en quelque sorte la légitimité étatique de cet État. Et ce sont essentiellement les Durrani qui ont gouverné. Bon. Alors, cette position centrale de l'ethnie pachtoune est contestée par d'autres ethnies qui habitent l'Afghanistan. Des ethnies d'abord persanophones, on va trouver ces populations qui sont les populations tadjiques, qui sont importantes, on les connaît essentiellement par Massoud, je crois que on a beaucoup parlé de ce personnage, donc les Tadjiks qui se trouvent au nord et qui eux aussi se trouvent à cheval sur plusieurs états, au moins deux, Tadjikistan évidemment, de l'ethnie éponyme et l'Afghanistan en l'occurrence. Et puis il y a l'ethnie ouzbek, qui se trouve également au nord, à la frontière évidemment de l'Ouzbékistan, donc là aussi, ethnie à cheval, peuple à cheval sur deux états, et qui, comme le peuple tadjik, conteste la centralité pachtoune de l'Afghanistan. Et puis on a d'autres populations qui sont d'autres minorités, des populations donc turcophones, comme je l'ai dit, donc les Ouzbeks, les Turkmènes qu'on retrouve, les Aïmaks, et une autre population qui, elle, se différencie de toutes celles que j'ai citées, qui sont sunnites, par le fait qu'elle est chiite. Ce sont les Hazaras. Les Hazaras chiites se sentent plutôt sous l'influence de l'Iran. Bon. Donc on a une mosaïque ethnique intrinsèque à l'État d'Afghanistan, et en plus, le chevauchement de ces ethnies sur la carte des États fait que les ethnies vont aller chercher des influences extérieures dans le voisinage, que ce soit dans les ex-républiques soviétiques d'Asie centrale, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan notamment, et même le Turkménistan.
Chacun se tourne vers son ethnie.
C'est cela. Voilà. Et puis, ou vers l'Iran, ou vers le Pakistan pour les Pachtounes, puisque le Pakistan, lui, a en permanence encouragé, voulu assurer la domination de l'Afghanistan par cette ethnie majoritaire. Hein, mais les populations persanophones au total représentent exactement la même proportion que les Pachtounes. Donc il n'y a pas de majorité écrasante et évidente non plus qui s'impose.
Oui, mais les persanophones sont extrêmement divisés.
Très divisés, effectivement.
Beaucoup plus divisés que les Pachtounes.
Absolument. Et c'est vrai que quand on regarde la composition ethnique, les Pachtounes sont incontournables et qu'on peut légitimement penser que toute construction étatique afghane se fait autour du noyau Pachtoun, c'est certain. Néanmoins, une construction afghane doit nécessairement prendre en compte les minorités périphériques, sans quoi on est en permanence dans un état de guerre.
Dominique Vénère.
Alors, cette majorité pachtoune, vous l'avez dit, est en rapport étroit avec l'ethnie pachtoune qui est représentée au Pakistan, et le Pakistan s'intéresse évidemment de très près à ce qui se passe en Afghanistan. Alors, quel est l'intérêt du Pakistan dans les affaires afghanes?
Bien, la première chose, c'est que du fait de cette composition ethnique, le Pakistan a toujours voulu empêcher les ethnies d'Asie centrale ex-soviétique de contrôler le pouvoir afghan. Il craignait que par l'intermédiaire des Tadjiks ou des Ouzbeks, et notamment de ceux qui composent l'essentiel de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Alliance du Nord, bien les Pakistanais craignaient que cette Alliance du Nord vienne installer en Afghanistan l'influence russe.
En fait, nous sommes là.
L'influence turque ou turkmène.
Nous sommes là au cœur du problème.
Nous sommes au cœur du problème.
Dans la mesure où l'Alliance du Nord apparaît bien comme une force étrangère.
Oui, je crois que c'est une force effectivement étrangère et que très objectivement, aujourd'hui, si on tient compte de cette réalité ethnique, il est absolument incontournable de concevoir un pouvoir autre que un pouvoir où les Pachtounes seront au centre. Tout le problème, c'est qu'effectivement, compte tenu de la conjoncture, on est obligé de dire que non seulement les talibans sont pachtounes, mais qu'en plus, ils représentent le clan qui a la légitimité traditionnelle, à savoir les Durrani, et que ceux qui les contestent sont d'un autre clan. Donc, il va falloir, s'il faut trouver une alternative à ce pouvoir, en tout cas, elle ne peut pas être l'installation pure et simple de ce qu'est aujourd'hui le Front commun du Nord, trop influencé par la Russie et intrinsèquement non afghane, à mon sens.
Ce qui fait que les Américains, en soutenant l'Alliance du Nord, apparaissent véritablement totalement étrangers au fond même du problème afghan et au fond même des préoccupations de la population afghane.
Je crois qu'ils soutiennent en partie l'Alliance du Nord, mais qu'ils cherchent, comme les Pakistanais, une alternative composite qui reste essentiellement sous leur influence. Je ne suis pas certain qu'ils aient envie non plus d'installer des ethnies qui risquent d'être quand même traditionnellement appuyées par les Russes et qui, a posteriori, leur poseront eux-mêmes problème.
Alors, quel est le jeu des Russes ?
Alors, le jeu des Russes en Afghanistan, il est effectivement, il s'inscrit dans ce qu'on a appelé cette fameuse poussée des mers chaudes, et qui traditionnellement a fait que la Russie a cherché à pousser donc vers l'océan Indien et l'Afghanistan se trouvant sur cette route. Mais au-delà de cette géopolitique très classique, il y a aujourd'hui la volonté, à travers les ethnies tadjiks et ouzbeks, qui sont liés aux républiques d'Asie centrale, encore relativement sous contrôle, quoi qu'on en dise, de la Russie.
Et de plus en plus.
Et de plus en plus, après quelques flottements pro-américains à la sortie de la guerre froide, on est revenu quand même dans une configuration où les républiques d'Asie centrale, y compris l'Ouzbékistan, on en reparlera, sont quand même liées stratégiquement à la Russie. Et donc, cette Russie cherche à empêcher l'influence américaine par le biais du Pakistan à prendre racine en Afghanistan, mais aussi l'influence chinoise qui est de plus en plus conséquente, puisque les Chinois, depuis quelques années, ont engagé de considérables efforts de création de routes pour placer l'Asie centrale au cœur du lien entre l'Europe et la Chine, et qu'ils sont de plus en plus intéressés à la fois par le pétrole de la Caspienne et par les routes du commerce qui se développeront sans doute un jour entre l'Europe et la Chine via l'Afghanistan et plus globalement l'Asie centrale. Donc les Russes, je crois, cherchent à garder prise sur cet Afghanistan en usant, comme tout le monde d'ailleurs, c'est là qu'on revient en permanence à ce que vous défendez et que je rejoins tout à fait, c'est la réalité ethnique fondamentale au centre de ces dynamiques géopolitiques incontournables. Quoi qu'en disent les marxistes qui nous font moult misère, eh bien, on ne peut pas comprendre la géopolitique et plus spécifiquement cette situation afghane si on sort de ça.
Je suis enchanté de vous entendre avoir sur l'Afghanistan une analyse qui est celle que je fais de l'Afrique. Nous sommes là dans deux mondes dans lesquels le fait ethnique est l'élément de départ.
Absolument.
Et si l'on nie cela, l'on passe complètement à côté du problème.
Mais ce qui est totalement contraire à toute logique, toute bonne logique, c'est qu'on voit des journalistes qui vous font ce reproche sur l'Afrique de parler d'ethnie, qui eux-mêmes aujourd'hui, dans leurs cartes qu'ils manipulent sur leurs journaux, parlent bien d'ethnie Hazara, d'ethnie ouzbek, tadjik, etc. Donc tout cela est très surréaliste et surtout d'une grande mauvaise foi. Idéologique.
Ouais. Dominique Venner.
Leur monde craque, mais il s'efforce de le maintenir en le bricolant.
Nous saluons l'arrivée de Philippe Conrad. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Vous avez prononcé le mot de pétrole. Quelle est la géopolitique des hydrocarbures en général dans la région et en Afghanistan?
Alors le centre pétrolier dans cette région, plus largement l'Afghanistan, il n'y a pas de pétrole, mais plus largement en Asie centrale, c'est évidemment la zone Caspienne. Alors dans les années 95-97, 2017, on pensait que, en termes de réserves mondiales, ça représenterait 10%. Bon, les estimations ont baissé, mais on pense quand même aujourd'hui que le pétrole et de la Caspienne tournera autour des 5% des réserves mondiales. 5%, c'est pas si négligeable que ça. Et surtout, quand on sait que le nœud mondial du pétrole, c'est le golfe arabo-persique, qu'il est stratégiquement verrouillé par les États-Unis, eh bien, le pétrole, ce petit supplément, ce potentiel de pétrole qui est le pétrole caspienne, devient tout à fait stratégique pour des pays comme la Russie et la Chine. La Russie d'abord parce qu'elle-même est un pays pétrolier et qu'elle n'a pas envie de voir les États-Unis augmenter leur potentiel pétrolier et donc venir fragiliser son propre marché. La Chine, parce que depuis 1993, la Chine est devenue un pays importateur de pétrole et qu'elle craint de plus en plus pour sa dépendance énergétique, ce qui souligne le fait qu'elle doit dépendre du golfe arabo-persique, donc la fragilise davantage vis-à-vis des États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle la Chine a engagé une véritable dynamique d'implantation à la fois diplomatique et en termes d'infrastructures et d'investissement vers la Caspienne. Et cette implantation chinoise passe par l'Afghanistan, évidemment, puisque les routes de désenclavement passent nécessairement par cet Afghanistan. Et rappelons qu'il y a une petite percée de l'Afghanistan vers la Chine qui donne à 100 km de frontière.
Pourquoi les États-Unis d'Amérique ont-ils si longtemps soutenu et le Pakistan et certaines fractions de l'actuel pouvoir afghan ?
Alors, le Pakistan, ça s'inscrit, je crois, dans la guerre froide et dans un choix stratégique face à l'Inde et face à la Russie. Donc, double choix stratégique pour contenir l'influence russe et l'influence indienne. Après la guerre froide, cette alliance n'a pas été remise en question. L'Afghanistan apparaît, du point de vue stratégique, dans cette dimension, comme une forme d'appendice du Pakistan. Et pour les États-Unis, il n'était pas question stratégiquement de laisser l'Afghanistan basculer par le levier ethnique du côté pro-russe, et qu'il était donc nécessaire de soutenir, quelle que soit sa forme et son visage politique, le régime des talibans. Et la deuxième raison, c'est qu'elle est purement aussi pétrolière, c'est-à-dire que les Américains, par rapport au pétrole de la Caspienne, voulaient désenclaver ce pétrole non seulement du côté turc, avec un oléoduc essentiel de Bakou-Séan, qui passerait par un Azerbaïdjan sous contrôle, face à l'Arménie pro-russe. Bon, et du côté est, par une voie qui aurait été la voie Afghanistan-Pakistan vers l'océan Indien. Et l'océan Indien, ça retombait dans la zone stratégique du golfe arabo-persique, donc une zone sûre et contrôlée par les Américains. Et donc pour les États-Unis, la dimension pétrolière, c'était évidemment mettre le pétrole de la Caspienne le plus possible sous contrôle pour empêcher les Russes et les Chinois justement de préserver leur propre indépendance énergétique pour accroître, eux, Américains, leur pression sur la dimension énergétique.
À l'heure actuelle, lorsque l'on peut lire les articles intéressants de fond qui sont faits sur la question, on a l'impression tout de même qu'existe une certaine tension entre les Arabes, en fait les Wahhabites, de Ben Laden et des siens et la population afghane. En quoi ce courant religieux, politico-religieux wahhabite est-il étranger ou peut-il se rapprocher de la tradition politique afghane?
Je crois qu'il est essentiellement étranger. D'abord, ethniquement, le monde arabe n'est pas présent en Afghanistan, donc c'est une forme de transplantation par le biais de l'islamisme wahhabite et plus largement de l'islamisme transnational. Et c'est assez mal, me semble-t-il, ressenti par la population. Néanmoins, les talibans, pour asseoir leur pouvoir, ont dû s'appuyer sur, dans leurs propres troupes, 20% de Pakistanais, c'est-à-dire 20% des talibans sont d'origine pakistanaise, pashtun ou autre, et sur, évidemment, l'implantation de réseaux purement d'essence non ethnique, c'est-à-dire ne rentrant pas dans une logique ethnique, mais d'essence transnationales, des réseaux comme Al-Qaïda et d'autres qui sont venus en quelque sorte consolider le pouvoir afghan et lui le pouvoir taliban et lui donner une force de projection internationale
qui dépasse complètement le cadre afghan, qui sont eux pour un califat musulman.
Oui, ils ont créé un émirat islamique en fin de compte, mais là où finalement c'est quelque chose qui est du point de vue historique assez fascinant, c'est de constater que alors que l'Afghanistan a été finalement un carrefour d'influence, qu'il s'est trouvé en guerre en permanence parce qu'il était un carrefour, en quelque sorte un réceptacle d'influence, il est devenu, par l'adjonction de l'islamisme transnational, un émetteur d'influence au point de créer un véritable pouvoir de nuisance internationale. Et ça, c'est tout à fait nouveau dans l'histoire afghane.
Et le phénomène taliban, lui, nouveau également. Définissez-le, ce phénomène taliban.
Les talibans sont... Taleb en arabe.
Excusez-moi, j'ai plusieurs questions sur l'explication du mot taliban.
Mais voilà, très bien. Très bien.
Et Moïse Chopra. Ça vient de Taleb en arabe, chercheur, étudiant en fait en théologie. Donc l'origine déjà du terme, ce sont effectivement des gens qui sont nés dans ce qu'on appelle les madrassas, les écoles coraniques, qui essaimaient le long de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, se sont appuyés sur un islam fondamental. Avant d'être wahhabite et donc étranger, arabe, là, hein, étranger à la région, sur ce qu'on appelle le Deoband, qui est en fait le fondamentalisme islamique qu'on trouve dans l'école indienne, l'école qui avait été créée à Delhi et qui a créé une dimension transethnique, transnationale d'un islam fondamentaliste attaché au retour.
Oui, c'est l'émirat.
C'est l'émirat.
On revient à l'islam des origines avec le califat.
Et ça, c'est quelque chose qui est à la fois transethnique et transétatique. C'est-à-dire que, comme tout islamiste, il y a une négation de la légitimité des frontières des États, y compris des États à l'intérieur
du autre universalisme.
C'est ça,
Le christianisme, l'islamisme, l'islam, nous sommes dans les grands universalismes des religions du livre.
Là, nous sommes absolument, et en termes de traduction géopolitique, dans une dimension de facteur civilisationnel. Mais sur l'aspect civilisationnel, là, c'est quelque chose que j'aimerais souligner, parce qu'on parle beaucoup de cette histoire de choc des civilisations. Je crois qu'il est apparu dans cette affaire la dimension civilisationnelle, puisqu'elle est portée, effectivement, par des réseaux transnationaux qui cherchent à coaguler en quelque sorte le monde musulman et à le dresser contre un monde occidental, mais qu'on ne peut pas réduire la situation actuelle à l'esquisse d'un choc des civilisations. Dans la mesure où se superpose le fait civilisationnel instrumentalisé par ces gens, les talibans, Al-Qaïda, etc., et se superposent à ce fait transnational les réalités étatiques et les jeux classiques entre les États. Donc on a une superposition. Je ne crois pas qu'on soit arrivé à une substitution en termes de relations internationales du jeu classique des États par un affrontement civilisationnel. La notion de civilisation, au fond, elle est utilisée aujourd'hui essentiellement par les islamistes, par les États-Unis qui cherchent à se placer au centre d'un monde civilisation puissance, dont il sera effectivement le centre, pour créer un bloc euro-atlantique, par Israël, qui cherche à développer cette idée de civilisation dans la mesure où Israël apparaîtrait ainsi comme la tête de pont avancée d'un bloc euro-américain. Elle est utilisée par beaucoup de monde, mais je ne pense pas qu'elle corresponde ni à la réalité en termes de rapport de puissance, parce que nous restons dans un monde fait d'État pour l'instant, ni à l'intérêt, et ça c'est autre chose, mais à l'intérêt spécifique de la France.
Nous avons plusieurs questions d'auditeurs, Victoria.
Que veut dire le mot afghan?
Afghan, on me pose une colle, mais
ça vient d'un royaume d'Avagana qui existait dans cette région au 4e siècle après Jésus-Christ, et le mot Afghanistan lui apparaît au 13e siècle.
C'est tout à fait récent. Ouais. Et ce sont les Anglais qui l'ont popularisé ensuite. Victoria.
Avant d'être sunnite ou chiite, quelles étaient les religions de ces différentes ethnies ?
Eh bien, il y a des religions, évidemment, comme le zoroastrisme pour les populations sous influence persanophone, l'hindouisme, enfin les grandes religions du monde indien et du monde perse.
D'où les bouddhas, d'où les fameux bouddhas.
Absolument, les bouddhistes également qui sont venus...
Il faut bien voir que nous sommes dans un monde indo-européen.
C'est un monde indo-européen.
Et lorsque l'on voit les physionomies de ces populations, des Pashtuns, on voit véritablement des gens qui pourraient, habillés à l'européenne, être dans les rues de Paris ou de Madrid et qui ne dépareilleraient pas.
Et le paradoxe d'ailleurs, c'est que ce sont les Pashtuns qui sont les plus indo-européens, dans la mesure où les Tadjiks ont une origine, semble-t-il, plus arabe. Ils seraient descendus de populations arabes et notamment de tribus du Yémen qui s'étaient implantées là au moment de la phase d'arabisation. Et c'est un peu le paradoxe, puisqu'aujourd'hui les Tadjiks du Nord sont justement contre cette arabisation par les talibans du pouvoir.
Oui, mais la conquête n'a pas eu de traces ethniques parce qu'elle s'est faite dès le début, dans les premières années de l'expansion après la mort du prophète Mohammed. Et effectivement, les cavaliers d'Allah sont allés jusque dans ces régions, mais il n'y a pas eu d'implantation ethnique. C'est comme en Afrique du Nord. Le vieux fond ethnique d'Afrique du Nord est resté, comme le vieux fond de ces régions également n'a pas bougé. Ouais. Il y a eu une arabisation peut-être intellectuelle par l'usage de la langue arabe, mais il n'y a pas eu d'arabisation ethnique. Et c'est pour ça que l'on voit à l'heure actuelle ce phénomène tout à fait intéressant, qui est une arabisation extérieure à l'Afghanistan, qui se fait par le phénomène taliban et par le phénomène des volontaires des légions islamiques venues du monde arabe. Ça, c'est tout à fait nouveau. Alors, comment les Afghans, qui sont si jaloux de leur indépendance de vallée à vallée, sont un petit peu comme les berbères du Haut Atlas, hein, des gens excessivement accrochés à leur zone et qui gèrent leur indépendance avec un soin parfaitement jaloux, comment peuvent-ils accepter la présence de ces contingents étrangers, pakistanais, originaires de tout le monde musulman, Arabie Saoudite, etc. Ça se passe aussi mal qu'en Bosnie avec les volontaires qui viennent du monde musulman?
Mais je crois que ça se passe pas très bien, mais simplement les talibans exerçaient quand même le pouvoir d'une main de fer, et par conséquent, quand il y avait des rébellions, elles étaient vite matées. Mais il est certain que la transplantation d'éléments wahhabites arabes semble assez mal vécue. Maintenant, parler des Afghans en général, finalement, c'est assez difficile parce que voilà, il y a des réactions différentes selon les ethnies et à l'intérieur des ethnies, selon les clans et les factions, avec des chefs de guerre. Il faut savoir que sous l'époque soviétique, il y avait au moins 600 groupuscules de résistance, quasiment tous autonomes, qui résistaient chacun de leur côté.
Chacun dans sa vallée.
Et certains avaient moins de 50 combattants. C'est d'ailleurs toute la difficulté aujourd'hui pour les États-Unis, je crois, pour abattre le pouvoir taliban, c'est qu'on n'a pas affaire à un pouvoir centralisé ou pyramidal. On a affaire à une structure très horizontale, très avec de multiples clans, très autonomes.
Et en bombardant les cailloux, ils ne risquent pas d'avancer bien loin. Encore question d'auditeur.
Il faudrait que vous citiez deux populations qui sont importantes. Ce sont deux peuples d'origine indo-européenne et pour lesquels on devrait se mobiliser. Ce sont les Nuristani, qui sont environ 300 000, et les Kalash, qui habitent les vallées de l'Hindou-Kouche, au nord-est de l'Afghanistan et du Pakistan.
Nous avons 2 minutes avant la coupure de 7h30. Voulez-vous répondre l'un ou l'autre?
Ils ont gardé leur coutumes païennes et ont toujours résisté à n'importe quel envahisseur.
Ils sont ismaéliens, donc ils ont quand même islamisé, mais c'est vrai que l'ismaélisme c'est un peu particulier. On en parlera avec les assassins sans doute tout à l'heure.
Philippe Conrad, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, enfin, ce sont des communautés ethniques de plus géographiquement qui sont marginales dans l'Afghanistan et qui historiquement n'ont pas joué un rôle considérable dans cet espace-là. Des régions relativement cloisonnées et isolées.
Il nous reste 1 minute et demie avant la coupure. Victoriane,
l'Afghanistan est-il uni, bi, tri ou quadrilingue?
Il y a un groupe de langues persanophones, un groupe de langues turcophones, et puis il y a le Pashto, qui est la langue des Pashtuns. Il y a au moins 3 grands groupes, d'autres dialectes.
Et y a-t-il une langue véhiculaire?
Essentiellement le Pashto.
Que l'on comprend dans l'ensemble de l'Afghanistan.
Qu'on comprend dans l'ensemble, mais enfin les Tadjiks, entre eux, ils parlent souvent Tadjik, et les Ouzbeks aussi.
Et de la famille de l'Ourdou.
Pakistan.
Mais écoutez, je vous propose de respecter cette coupure technique de 7h30 et nous nous retrouvons immédiatement après pour poursuivre cet entretien tout à fait intéressant sur l'Afghanistan.
Oh, Sans